Enfin, notre prochain invité a été jadis un régulier de notre émission. Depuis, il est devenu député péquiste de Rosemont. Deux jours avant le 20e anniversaire du second référendum, il lance Octobre 95, Tous les espoirs, tous les chagrins aux éditions Québec-Amérique. Pour placer le bébé, DJN nous a préparé un extrait mettant en vedette Jean-François Lisée dans le film Point de rupture.
À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum.
Alors moi, je commence la conversation à table en disant « Monsieur Parizeau, l'histoire vous jugera sur ce que vous direz ce soir. » Et là, la conversation prend un tour qui pour moi est tout à fait inusité. C'est que plutôt que de discuter « Bon, voici la situation politique nouvelle créée par cette défaite, comment en tirer le maximum ?» Il ne veut discuter que de ce que ça lui fait à lui personnellement. Là, c'est vraiment, c'est personnel. C'est vraiment, c'est l'homme blessé. Tout ça en valait la peine si je gagnais. Mais maintenant que j'ai perdu, ça n'en valait pas la peine. Maintenant que j'ai perdu, je ne suis qu'un homme blessé. Et il faut que ça sorte. Donc, évidemment, je donne mes feuilles à M. Parizeau, qui les déplie, qui les lit, les replie, les met dans sa poche. Il ne dit rien.
Les amis, c'est raté, mais pas de beaucoup. Non. Puis c'est réussi. C'est réussi sur un plan. Si vous voulez, là, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous? On va parler de nous. À 60%, on a voté pour.
Je me souviens de Marie-Josée Gagnon, son attachée de presse, qui me regarde. Puis là, on se fixe au moment où il dit ça. Et on est complètement effaré. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ça, c'est terrible. On va parler de nous. Et nous faire revenir des années en arrière en une seule phrase. On va parler de nous. Puis moi, je voyais les visages de minorités visibles. Les minorités visibles étaient devant lui. Là.
Jacques Parizeau, défait, arrive au micro avec la phrase que l'on sait.
C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement.
J'essaie d'aller chercher mon manteau à la suite et de quitter. Et je tombe face à face avec M. Parizeau. Alors, il me regarde et il me dit « Alors, M. Lisée, trop raide? » Et là, je comprends que lui-même doute un peu de l'opportunité de ce qu'il vient de dire. Et je lui dis « Monsieur Parizeau, si vous aviez peur d'être insulté, là où vous allez vous faire insulter. » Et puis, il se défend, il dit, je sais pas trop. Je lui dis, en tout cas, je dis, vous avez arrêté votre sortie. Et puis là, j'étais incapable de continuer.
Bonjour, Jean-François Lisée.
Wow, c'est dur de faire ça à quelqu'un, là. J'avais pas réentendu ça depuis longtemps, là. Vous m'avez vraiment replongé dans l'émotion du moment.
Puis je trouve, au plan journalistique, c'est quelque chose de fabuleux. Moi, j'avais pas entendu cet extrait-là, tel quel commenté par vous. Puis je me disais, comment il a vécu ça? Aussi près de M. Parizeau, sachant qu'il allait sans filet, est-ce que la crainte que vous aviez, qui s'est avérée, était aussi présente avant ou vous disiez peut-être qu'il va être modéré?
Non, parce que moi j'ai vécu ça avec M. Parizeau, avec M. Bouchard, avec d'autres patrons, puis des gens qui travaillent avec des personnalités qui sont sous pression savent que très souvent, avant une prise de parole publique, la personne va se ventiler, disons, son émotion, sa colère, sa frustration, son stress avec ses proches collaborateurs, et ensuite devant le micro, c'est le parfait gentleman. Et ça, M. Parizeau nous l'avait fait souvent, M. Bouchard nous l'a fait souvent. Alors, j'escomptais ça. Je me disais, bon, ben, on lui a quand même tout dit ce qu'on voulait lui dire. Mm-hmm. On a été très positifs. D'ailleurs, dans son discours, il reprend plusieurs des éléments qu'il y a dans les notes de discours que je lui ai données et que je publie dans mon livre. Je publie le discours qu'on avait prévu pour le oui, le discours que j'avais donné pour le non. Mais il improvise et il sort. Et là, c'est cette partie-là. Moi, d'ailleurs, dans mon pire scénario, ce qu'il avait beaucoup travaillé dans notre discussion avant, c'est qu'il avait été insulté pendant toute sa vie par les médias de Toronto, par les médias de Montréal. S'il devait sortir contre quelqu'un, ça aurait été contre les médias. Ça n'aurait pas été une bonne idée. Il faut être très gracieux, peu importe, dans la victoire comme dans la défaite, il faut être gracieux. Mais donc, ce genre de virage sur le vote ethnique, alors que nous savions très bien que c'était pas dans nos scénarios. Je veux dire, on espérait avoir autant de votes non francophones que possible, mais on savait que ce serait pas significatif. Donc, il fallait avoir plus de 62% du vote francophone partout. Puis on l'avait pas eu, puis c'est pour ça qu'on avait perdu. Alors, ça me semblait incongru. Évidemment, c'était pas une leçon de savoir-vivre politique non plus. Et ça nous gâchait notre soirée, parce que c'était une soirée. C'est vrai qu'on avait perdu de peu, mais la force de changement d'avoir eu près de 50% et sachant que dans le vote du non, il y avait une volonté de changement aussi dans le vote du non. Alors, le discours nous enlevait la possibilité de rebondir sur ce qui se passait ce jour-là. Et c'est ça qui m'a le plus déçu dans son attitude.
Jean-François, est-ce qu'il y a eu une guerre froide entre vous deux? Est-ce qu'il y a eu une bonne période avant que vous reparliez?
Ah, ben, on n'avait pas le choix.
C'est ce que j'ai pensé.
C'est vrai que ce soir-là, donc, on s'est parti, c'était très froid. Notre discussion a été brève, mais un peu cassante. Mais moi, le lendemain matin, on avait prévu un appel avec Jacques Chirac, le président français, et avec le président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin. Et c'est moi qui étais chargé de ça. Alors, je l'ai rejoint. Il était au Ritz. Hein, les agents de sécurité lui avaient demandé d'être au Ritz plutôt que dans sa maison. Et je l'ai rejoint dans sa baignoire. Et j'ai dit, là, M. Parizeau, on n'a pas le choix. On a un appel avec le président de la République française dans, je sais pas, 45 minutes, une heure. Et puis, il fallait qu'il arrive. Et puis on l'a fait. Et puis, ensuite, on a eu une rencontre où j'étais un de ceux qui disait, ben moi je pense qu'il faut cautériser la plaie et la seule façon c'est d'annoncer aujourd'hui la démission. Et puis ensuite, bon, on a travaillé ensemble hein, jusqu'à Monsieur Parizeau là. Ce qui était extraordinaire avec lui, c'est que tous les matins les compteurs étaient à zéro. C'est-à-dire que on avait eu beau avoir une discussion franche, virile la veille, puis il aimait se faire contredire par ses conseillers, puis c'est pour ça qu'il nous choisissait, puis on disait des fortes têtes. Et puis il prenait la décision. Puis le lendemain, c'était bonjour M. Izé, bonjour M. Royer. On recommence à zéro. Il n'y avait pas de rancune. Lui, il était très opérationnel. Donc, quelle est la tâche aujourd'hui? Comment on va y arriver? Donc, moi, j'ai eu de bonnes relations avec lui jusqu'à la fin. Puis quand je suis allé le voir pour lui dire, bon, ben M. Bouchard me propose de rester. Qu'est-ce que vous me conseillez? Il m'a conseillé. Si ça vous tente de continuer, allez-y. Bon, donc, il m'en a pas voulu de ça, mais...
Est-ce que, parce que je sais que Lisette Lapointe, sur certains points de ce que vous avez dit, a été scandalisée, s'est dite scandalisée, indignée, est-ce que vous avez été capable, par exemple, d'avoir des accords importants sur la parole, sur l'esprit, mais en gardant un respect entre les hommes et les femmes qui va par-dessus juste les mots et les idées?
Ben oui, ben constamment. Je voulais dire avant le référendum, après, depuis, récemment.
Mais durant toute cette période-là, de remis, ben oui, même pendant, parce qu'évidemment, on vous paye pour donner votre avis.
C'est ça. Non, moi j'ai toujours eu un très grand respect pour M. Parizeau. Je le conseillais. Parfois, il n'était pas d'accord. On avait des discussions parfois vives. Et puis moi, ça me surprenait parce que je me disais, ben moi, je suis le dernier rentré, puis je suis bien jeune, puis lui, c'est un géant. Et puis, par exemple, on avait des rencontres toutes les semaines sur la stratégie souverainiste avec le vice-premier ministre, M. Chevrette et quelques autres. Puis moi, je disais toujours, bon, on va se préparer avant. Puis ensuite, donc, c'est lui qui va parler. Et puis, non, M. Lisée, vous me ferez rapport au début de la rencontre. Ben là, je faisais rapport. Des fois, ils étaient d'accord avec ce que je disais, puis là, ils engageaient la discussion sans moi. Mais parfois, ils étaient en désaccord avec ce que je disais. Et puis là, j'étais pris à débattre avec lui devant des ministres. Puis je trouvais que c'était pas ma place de faire ça. Mm-hmm. Puis je voulais pas. Mais il m'encourageait. Il voulait. C'est le lieu, là. C'est le comité de souveraineté. Alors, on va discuter. Alors, il n'était pas imperméable du tout à la discussion. Il voulait la discussion. Et puis, c'est ça. On travaillait ensemble. Et puis, on faisait avancer les choses. Puis, je me souviens, quand il l'a quitté, puis d'ailleurs, on s'est vu à plusieurs reprises après. J'ai dédicacé mon livre pour une gauche efficace. Il est venu, puis une remarque qu'on se faisait, enfin qu'il me faisait, c'est qu'on avait vraiment bien travaillé ensemble. Moi aussi, j'en garde un excellent souvenir.
Monsieur Parizeau a parlé donc d'une bonne partie de la défaite attribuable à la minorité immigrante. Aujourd'hui, on n'a pas évacué complètement ça. S'il y avait, par exemple, avec Monsieur Pelado en 2018, je sais pas, mais est-ce que le vote des immigrants serait une variable? Est-ce qu'on devrait encadrer ça de façon différente qu'en 95, à votre avis?
Bon, il y a deux choses. D'abord, il a dit l'argent et le vote ethnique. Oui. Des votes ethniques. Bon, l'argent, il a parfaitement raison. Je veux dire, on avait des plafonds de dépenses de 5 millions de dollars chacun, et le gouvernement fédéral a ajouté au moins 10 millions de dollars du côté du non. Alors ça, c'est un irrespect absolu. Et on voit qu'en Écosse, le gouvernement britannique, lui, a respecté les plafonds de dépenses oui. des Écossais. Il nous a donné une grande leçon de démocratie. Maintenant, il est vrai aussi, moi, je pense que sur le fond, en principe, il y a 80% de francophones au Québec. Puis s'il y en a 2 sur 3 qui veulent l'indépendance, c'est fait. OK? Ouais. Alors ensuite, d'aller dire que c'est dans le 20% de minoritaires, là, eux autres sont responsables de ne pas être assez, etc., ça n'a pas de sens. Si on a 2 sur 3 francophones qui veulent l'indépendance, on l'a.
Et on est Québécois, Jean-François, ou on ne l'est pas, mais semble que oui, si oui, on vit au Québec, on est Québécois.
On est Québécois, mais on a des intérêts qui sont divergents. Un anglophone montréalais, en général, il veut rester dans un pays qui s'appelle le Canada où il est majoritaire. Mm-hmm. Et un immigrant de première génération, il est respectueux et redevable au pays qu'il a accueilli, qui est le Canada. Alors, quand il y en a 5 ou 10 % de non-francophones qui votent pour le oui, ben c'est extraordinaire. T'sais, ils vont un petit peu en sens inverse de ce que serait leur courant normal. Mais quoi qu'il en soit, il en faut le plus possible, mais ça ne repose pas sur eux. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que les fédéraux, en 95, ils ont utilisé tous les subterfuges possibles pour essayer de dévoyer la démocratie. Et vous savez, les citoyens, les immigrants reçus au Québec qui deviennent citoyens, ou ailleurs au Canada, ils ont droit de vote immédiatement. Là, il n'y a aucun délai. Ils sont citoyens, ils ont droit de vote. Et ce qui fait que les fédéraux, dans le mois qui a précédé le vote du 30 octobre 95, ont augmenté de 400% le nombre de certificats de citoyenneté émis. Ils appelaient les gens chez eux en disant « Vous n'avez pas demandé de certificat de citoyenneté, venez, on va vous le donner. » C'est sûr que la loi fédérale n'a pas été respectée dans plusieurs des conditions d'accès à la citoyenneté. Donc, ils ont fait une utilisation politique de la citoyenneté. Alors, moi, je dis, ben, regardez, qu'est-ce qu'ont fait les Britanniques en Écosse? Ça n'a pas existé, ça. Pourquoi est-ce qu'ici, ça existe, puis là, ça n'a pas existé? Donc, la première chose à faire, lors du prochain référendum, je ne sais pas quand il y aura lieu, mais ça sera un lundi, là, je peux vous dire ça, bien. La prochaine fois, ben, c'est de dire, ben, faisons ce que les Britanniques, les Écossais ont fait. Entendons-nous auparavant sur la nature du respect de la démocratie, et ensuite chacun fera sa campagne sur des arguments. Il n'y a pas de raison qu'ici, les Canadiens soient moins démocrates que les Britanniques.
Vous avez dans votre livre, la partie 6, c'est « Être prêt pour la prochaine fois ». Vous parlez du sabotage fédéral. Quelles sont les pistes de solutions pour qu'il y en ait une prochaine?
Bon, alors, donc la première chose, c'est d'essayer de faire la même chose que les Britanniques. S'ils ne veulent pas, okay, parce que les libéraux fédéraux qui viennent de reprendre le pouvoir, ils ont promis de faire la même chose que la dernière fois. Hein. L'utilisation politique de la citoyenneté, on dit on va leur faire... dépenser sans compter de l'argent fédéral. Vous savez, le fameux Chuck Guitté, là, qui était la star fédérale des commandites, là, oui. Lui, il était aux travaux publics à Ottawa, il avait pris le téléphone, puis il avait appelé tous ceux qui ont des panneaux réclames au Québec, c'était les Mediacom à l'époque,
oui.
Il a dit, combien il vous en reste pendant l'automne 95? Ça veut dire, ben, tant de milliers. Il dit, je les prends tous. Nous, on s'est rendu compte de ça. On pouvait plus acheter un seul panneau réclame parce qu'ils avaient tous pris. Alors, c'est pour ça qu'on était si présents sur les autobus, parce qu'ils n'avaient pas acheté les côtés d'autobus. Alors ça, c'est la petite histoire. Mais vous savez tout, là, Gilles. Donc, c'est sûr que la prochaine fois, la première chose à faire, c'est de s'entendre. S'ils veulent pas, moi, ce que je propose, c'est de dire, bon, on peut pas interdire au Canada de vouloir acheter les panneaux réclames. Mais nous, au Québec, on peut interdire aux compagnies de panneaux réclames de vendre leur espace à qui que ce soit qui fait une propagande pro-Canada ou pro-Québec dans une dépense qui n'est pas autorisée par le camp du oui ou du non. Nous, on peut agir sur la compagnie, sur l'imprimerie, sur les gens qui font les pamphlets, sur la location d'autobus, etc. Si c'est en lien avec le débat politique en cours et que ce n'est pas autorisé par le camp du oui ou du non, vous ne pouvez pas le faire sous peine d'amende. Alors, comme ça, on pourrait restreindre considérablement la capacité de nuire des fédéraux. Et ça, c'est une voie qu'on n'avait pas empruntée la dernière fois.
Quand vous parlez du référendum écossais, moi, ce qui m'a charmé, c'est la clarté de la question, la simplicité de la question. On a eu deux questions au Québec qui me semblaient complexes, là. Alors que celle-là est assez simple. Est-ce que c'est une chose qui vous a ravi dans la façon de faire?
Moi, ce qui m'a ravi, c'est que c'est à la fois, ils ont trouvé une façon de respecter les Écossais, parce que ça a été le Parlement écossais qui a décidé de la question. Mais ils se sont dit, on va désigner un genre de médiateur neutre qui fait notre affaire, qui va regarder la proposition de question et qui va faire des recommandations aux Écossais, ce qui a été fait. Et les Écossais ont accepté les recommandations. Et à partir de ce moment-là, les Britanniques ont dit, bon, ben c'est 50% plus 1 à cette question-là que les Écossais ont décidé en toute souveraineté. Et puis, on va pas chipoter sur le chiffre, on va se mettre à négocier après. Alors, moi, la question 95, je la trouvais bonne parce qu'elle disait exactement ce que les Québécois voulaient. Ils voulaient devenir souverains après avoir fait une offre de partenariat économique et politique au Canada. Alors, c'était les deux. Alors, c'était le projet. Maintenant, si on peut être, si c'est plus leur projet la prochaine fois, ben le projet va être écrit différemment. Les Écossais avaient pas ce projet-là. Ben, très bien. Mais de dire, mais regardez comment les Écossais et les Britanniques ont trouvé une formule. Est-ce qu'on peut trouver une formule semblable où on a le droit d'exprimer quel est notre projet? Si on dit, nous, on veut être indépendant, mais on veut vous offrir une association. Vous pouvez quand même pas nous interdire d'avoir le mandat de vous l'offrir, même si vous dites non. C'est ça la position fédérale en ce moment. Mais en tout cas, c'est clair que moi, je suis ouvert à ça. Puis plusieurs autres membres du Parti québécois qui sont allés en Écosse ont dit, ben là, ils ont trouvé quelque chose. Qui serait pas mal mieux que ce que le fédéral a pris comme position depuis.
Vous avez probablement vu, Jean-François, le sondage ce matin qui a été fait par Le Devoir, disant que l'option souverainiste est en perte de vitesse. On pourrait dire que la Radio-Québec le sait depuis longtemps, mais écoute, on pourra en parler longtemps. Sauf que c'était pas une grande surprise pour nous de voir ça. Et les auditeurs se demandent, est-ce que l'espoir est toujours nécessaire? Est-ce qu'on va toujours ramener ça à la surface? Est-ce qu'un jour, on va passer à autre chose ou demander autre chose? Ça reste dans l'air des batailles qui sont dures dans l'argumentation, dans la façon d'intégrer les différentes factions d'un Québec qui est plus bigarré qu'avant. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire autant que ça l'était?
Moi, je pense que c'est... D'abord, moi, je suis de ceux qui pensent que ça n'a pas d'allure que la nation québécoise vive dans la maison de son voisin. Comme ce serait pas normal que le Canada soit un État des États-Unis ou que l'Espagne soit une province de la France. Ça, peu importe la conjoncture, moi, c'est ma conviction. Je vois pas pourquoi on demande la permission pour faire toutes sortes de choses à des gens qui sont bien sympathiques, mais qui sont nos voisins, premièrement. Mais dans le sondage de ce matin, moi, il y a aucun de ces chiffres-là qui sont très surprenants. On les a vus ces dernières années. Mais il y en a un que je trouve très significatif parce que on demande aux Québécois, est-ce que vous êtes satisfait de la place du Québec dans le Canada actuel? Ils sont juste 29% à dire oui. Alors, il y a moins de gens qui sont satisfaits de la place du Québec dans le Canada actuel qu'il y en a qui veulent la souveraineté. Alors, ça montre que le problème, il est pas résolu, là. T'sais. Il est pas résolu. Il n'y a pas d'appétit pour le Canada actuel. Il y a un petit peu plus d'appétit, mais pas tant que ça, pour l'indépendance. Donc, on est comme entre deux chaises. Ma comparaison, c'est comme si vous avez une maison sur la faille de San Andreas, là, en Californie, ou la faille des tremblements de terre. Puis là, vous dites, hey, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre. Ça fait qu'il n'y en aura plus. Ben, la faille est toujours là. Alors, tant que ce problème-là n'est pas résolu ou vous n'avez pas déménagé, il va se passer des choses.
Dans le sondage aussi, il y a quand même pas plus de 22% des gens qui disent un jour, l'indépendance va se réaliser. Et d'autre part, en mettant ça en parallèle avec le Bloc qui a perdu près de 80 000 votes, ça peut pas être juste circonstanciel. Est-ce que les souverainistes sont fatigués?
Ben, c'est sûr qu'on est dans un creux de vague. Puis moi, dans ma brève mais intense campagne au leadership, je disais, ben, on est en pénurie d'indépendantistes. C'est sûr qu'il y a moins d'indépendantistes maintenant qu'il y en avait certainement en 95 ou 96 et qu'on a un travail de reconstruction à faire, un travail de conquête de la jeunesse. C'est clair qu'il y a presque 2 millions de Québécois qui étaient trop jeunes en 95, qui ont vécu aucune des péripéties avant, qui n'ont pas été mis devant un refus du Canada de nous reconnaître. Alors, c'est sûr que leur culture politique n'est pas la même. Ça veut dire que nous, on a un gros travail de pédagogie à faire.
Surtout sur la relève, Jean-François, parce qu'il y a 70 % des 18-34 qui disent « Nous autres, on ne voudrait pas que le Québec devienne un pays indépendant. » Donc, eux autres sont pas... Ça me fait dire, ceux qui pensent que c'est le projet d'une génération, on ne peut pas dire qu'ils ont complètement tort.
C'est ça, mais sauf qu'au début 95, Gilles, vous vous souviendrez que les gens disaient la même chose, oui. La jeunesse québécoise de début 95, qui n'était pas là, qui ne serait pas là-dedans. Puis en un an, ils sont devenus très, très indépendantistes. Mais lorsqu'on demande aux jeunes dans d'autres sondages, est-ce que vous êtes attachés au Canada? C'est les moins attachés de toutes les générations. Pour eux, le Canada, ça les fait pas vibrer du tout. C'est un ailleurs. Ça les intéresse pas, le Canada.
C'est la planète,
mais c'est le Québec. On dit, êtes-vous attachés au Québec? Ils sont très, très attachés au Québec, très peu attachés au Canada. Mais sur le truc qu'on dit, juste 22 % des gens qui pensent que ça va arriver, ben, c'est une prédiction.
Ouais.
Mais en 96, la majorité des Québécois pensaient que l'indépendance allait arriver. C'était une prédiction. Ils se sont trompés à ce moment-là. Ils peuvent se tromper maintenant.
L'arrivée de Justin Trudeau pour les souverainistes, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
C'est trop tôt pour le dire parce que c'est bon. D'abord, il va avoir sa lune de miel. Ça, c'est sûr. Hein? Il va avoir sa lune de miel. Puis il présente bien. Puis avec le couple. Et puis, tu sais, on va être quand même plus content de le voir, lui, discuter de changement climatique à Paris le mois prochain qu'on l'aurait été avec Harper. Donc, c'est sûr qu'il y a des aspérités, là, il y a un genre de tonalité qui va être différente. Mais on sait qu'il y a toute une partie de sa vision politique qui est vraiment en conflit avec celle des Québécois et de beaucoup de ses propres électeurs.
Centralisateur, en tout cas d'expérience pour le Parti libéral, ça a souvent été ça.
Oui, ça on verra ça. Mais sur toute la question du NICAB, par exemple, c'est sûr que lui... C'est non seulement il accepte qu'on puisse voter avec le NICAB, il accepte qu'on puisse travailler au bureau de poste avec le NICAB. Là. Ça va arriver, là. Ça, c'est bientôt, là. Il va y avoir une femme à Mississauga ou à Toronto ou à Montréal qui va dire, ben, je suis au bureau de poste puis je veux pouvoir servir avec le NICAB. Puis M. Trudeau va dire, je suis pour ça. Alors qu'au Québec, nous, on s'apprête à voter une loi qui va dire, ben, dans le secteur public québécois, c'est interdit. Ben, qu'est-ce qu'il va dire, le premier ministre du Canada, si nous, on interdit ça, puis lui, il trouve que c'est un droit fondamental?
C'est bon, la chicane? Ça a toujours été bon pour l'option?
Ben, moi, je pense juste sur
c'est un point précis, place, non? C'est un point précis, effectivement.
Quelle place avons-nous dans le Canada? Est-ce qu'ils accepteraient? Parce que nous, 100 % des députés à l'Assemblée nationale, là, nous, on pense que si tu travailles, disons, à la régie... Si tu donnes des permis, là, tu devrais avoir le visage découvert. Est-ce que Justin Trudeau va accepter qu'au Québec, ça soit différent du reste du Canada? Est-ce qu'il va accepter qu'on est une société distincte sur ces questions-là puis qu'on n'a pas à se conformer à sa vision des choses? Ça va peut-être être un des débats qu'on va avoir là, d'ici 3 ans.
Probablement. Je vous souhaite un succès avec votre livre et au plaisir de vous reparler.
Merci, Gilles. À très bientôt.
Merci, bonne soirée. Jean-François Lisée, député péquiste de Rosemont, lance le livre Octobre 95, Tous les espoirs, tous les chagrins.